Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Impossible de reprendre les activités scolaires sans consensus autour des revendications des enseignants. Réponse du secrétaire général de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Puna, répond ainsi au ministre Tony Mouaba qui invite à la reprise effective des enseignements à travers la République. Il est important que la communauté internationale ait un regard très attentif sur la situation de l'Est de la RDC. Propos du directeur d'Afrique et de l'Océan Indien au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Bigot, est rencontré hier à Goma, le gouverneur du Nord Kivu. Et puis, gouvernance inclusive de la paix, c'est le nouveau projet lancé au Kasaï central et dans le Maïndombe par l'ONG Interpeace. Il est temps de consolider la paix après la crise qui a secoué l'espace Kasaï, explique le chargé des programmes à Interpeace, Bienfait Mouigui Roy et l'invité de ce journal. Madame, messieurs, bonjour. Reprise ce vendredi à Kisantu dans le Congo central des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Le gouvernement estime que tous les préalables posés par les enseignants ont été réalisés. Tony Mouaba, ministre de tutelle, appelle les professionnels de la CRE à rassurer le gouvernement si les enseignements sont effectifs dans tous les établissements de la République afin d'engager ce dialogue pour un atterrissage en douceur, a dit Tony Mouaba. On l'écoute.
La convocation de ces assises ayant été réalisée, les bancs syndicales que j'avais personnellement reçues avaient souhaité voir la réhabilitation des 4 enseignants qui étaient désactivés de leur salaire. Ceci fut réalisé. Et le gouvernement estime que pour sa part, tous les préalables posés par les bancs syndicales ont été réalisés. J'insiste et je parle en termes de préalables. Et ces assises constituent un cadre de réflexion et de propositions, de pistes et de solutions que les bancs syndicales nous rassurent au jour d'aujourd'hui si les préalables aussi du gouvernement, à savoir l'observance des enseignements dans tous les établissements scolaires, se déroulent aussi normalement pour nous permettre d'engager ces dialogues, des discussions pour un atterrissage en douceur.
Réponse, la démarche du gouvernement est très difficile dans la mesure où il tient rarement à ses promesses. Réponse de Jean Bosco Puna, secrétaire général de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Selon lui, impossible de reprendre les activités sans trouver un consensus autour des différentes revendications des enseignants. Jean Bosco Puna.
Le gouvernement souhaiterait que les activités puissent reprendre au moment où nous sommes en discussion. Mais c'est une démarche qui est très difficile dans la mesure où vous savez que le gouvernement ne tient pas toujours ses promesses. Et aussi, les grandes options ne sont pas encore levées. Cette commission paritaire doit nous permettre de trouver une grille barémique qui puisse permettre que le gouvernement s'engage, qu'on puisse lier les partis. Donc, il est difficile pour que les activités scolaires puissent reprendre simplement parce que il faut absolument qu'il y ait un consensus, qu'on trouve un terrain d'entente sur ces différentes revendications qui sont restées pendantes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont désactivées aujourd'hui. Il n'y a aucun compromis là-dessus. La question relative aux nouvelles unités, il n'y a encore aucune réponse là-dessus. Donc il faut absolument que les options soient levées pour que les syndicats porteurs de la revendication puissent organiser des assemblées générales des enseignants.
Dossier réalisé par Paul Matendo Mayamba. Je vous le disais en titre, le directeur d'Afrique et de l'Océan Indien au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères estime important que la communauté internationale ait un regard très attentif sur la situation de l'Est de la RDC. Christophe Bigot l'a dit au sortir d'un entretien hier à Goma avec le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Bernard Nyangi nous en parle.
M. Christophe Bigot a dit aux médias que sa tournée vise, entre autres, à évaluer l'appui de la France à l'RD Congo sur notamment le plan culturel et du développement. Il a par ailleurs insisté sur les interventions de son pays comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le plan de la restauration de la paix dans l'Est du Congo.
Dans quelques semaines, le mandat de la MONUSCO va devoir être renouvelé. Et je pensais que c'était important de voir le gouverneur pour évoquer avec lui ce que la France fait pour que la MONUSCO puisse appuyer les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'état de siège, j'ai pu moi-même m'en rendre compte puisque je suis allé hier à Beni. Je trouve que c'est important que la communauté internationale puisse avoir un regard très attentif à ce qui se passe ici dans l'est de la RDC. Chaque jour apporte son lot d'attaques, de massacres, qui dépassent d'ailleurs maintenant la RDC. Donc c'est essentiel de pouvoir mieux le comprendre pour pouvoir y répondre de la manière la plus appropriée.
Monsieur Christophe Bigot précise avoir commencé sa tournée dans la région par Kinshasa avant de poursuivre son périple à Kigali. Partout où il est passé, il a rencontré les autorités des deux pays. Christophe Bigot était arrivé hier jeudi à Goma, en provenance de Beni, avant de poursuivre son voyage à Bukavu. Goma, Bernardin Ngui, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, un calme précaire s'observe ce vendredi à Pinga, théâtre des affrontements depuis hier entre deux factions belligérantes du NDC rénové. Selon des sources civiles et administratives locales, les habitants qui avaient fui ces accrochages commencent à regagner leur village. Entre-temps, l'armée mène des patrouilles dans cette zone des combats. Retrouvons à nouveau Bernardin Nyangui.
C'est dans la matinée hier jeudi que ces accrochages ont opposé les combattants de la faction de Ndouma pour la défense du Congo, un des rénovés de Guidon Mouissak, à celle de Gilbert Bouira, commandé par un certain Mapenzi. C'était dans le village de Mukaka et Kailenge, situé à environ 4 km de Pinga, dans le groupement Yana. Selon la société civile de Pinga, les hommes de Bouira, en provenance de Mutongo, seraient tombés dans une embuscade étendue par ceux de Guidon. Des échanges de tirs d'environ 1h30 qui s'en sont suivis ont paniqué les habitants du village Katanga, Kailenge et Mukaka qui ont fui vers Kassa, Bushimo et les autres vers l'hôpital de référence de Pinga. Si aucun bilan de ces accrochages n'est encore disponible à présent, la société civile locale indique que le calme s'est rétabli dans la zone et les habitants regagnent progressivement leur village depuis ce vendredi matin, malgré la présence des combattants dans les environs. Pendant ces temps, certaines sources officielles à Pinga indiquent que les éléments FRDC déployés dans la région mènent des patrouilles dans les villages Mukaka et Kailenge pour assurer la population. Goma, Bernardin Ngui, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, 5 morts, dont 4 civils et un milicien. C'est le bilan provisoire des affrontements ce vendredi matin entre l'armée et les miliciens de la Codeco à Nizi, 30 km au nord de Bunia, territoire de Djougou. Des sources sécuritaires indiquent que ce groupe armé a attaqué ce matin la position des FARDC pour tenter de reprendre le contrôle de cette entité, ce qui a provoqué le déplacement de la population. Le récit de Martial Kiza.
Selon des sources sur place, la situation reste confuse à ce moment dans la région minière de Nizi où des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis ce matin. Déjà très tôt, vers 4h, un grand nombre de miliciens en provenance de Nyarada et de la colline de Di ont envahi les centres de Nizi, principalement les bureaux de la chefferie. C'est ici que des combats ont éclaté entre les FRDC et les miliciens de la Codeco, déclare le président de la société civile de Mambisa. Les bilans provisoires, selon des sources sécuritaire fait état des 4 civils tués, dont un détraqué mental. Un élément de la Codeco a également été tué. Pour le moment, ces miliciens venus en masse ont encerclé les centres de Nizi, confirme des sources sécuritaires, ce qui crée une panique à Iga Barrière, un centre situé à 5 km de Nizi. Ici, la population vide de l'ailier pour se diriger dans les endroits sécurisés. La société civile de l'Ituri demande à l'armée de passer à l'offensive pour empêcher ces miliciens de se dirigé vers Iga Barrière. Pour le moment, l'armée ne s'est pas encore prononcée. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Rendons-nous au sud Kivu. Ce 29 octobre marque le 25e anniversaire de l'assassinat de Mgr Christophe Mundiiroa, alors archevêque de Bukavu. Ce prélat catholique avait été abattu sur la place publique de Bukavu par des militaires de l'AFDL lors de la prise de la ville de Bukavu en 1996. Aujourd'hui à Bukavu, une messe est dite à cette occasion sur la place dite Mundiiroa au centre de la ville. Emmanuel Elameji revient sur ce qui s'était passé ce jour-là.
L'archevêque de Bukavu est assassiné lors de la prise de Bukavu par les éléments de l'AFDEL le 29 octobre 1996. Plusieurs témoins encore vivants reviennent sur ce qui s'était passé ce jour-là. Alors que les coups de balle se faisaient encore entendre sur la ville, Christophe Mundiiroa quitte Vamaro et prend la direction du collège Al-Fadiri à l'est de la ville. Il tente d'aller sauver les sœurs dont la sécurité n'était pas garantie. Arrivé sur la place dite Niawera, en plein cœur de Bukavu, il est stoppé par un groupe de militaires occupants. S'en est suivi une longue discussion. Ce sont les occupants d'une deuxième voiture qui venaient par derrière et qui ont réussi à s'échapper et vivre la scène à distance. Selon leur témoignage, c'est au-delà de 18h30, après longue discussion, que Christophe Munzi-Irwa sera abattu sur le même endroit. Il a fallu attendre le lendemain à la mi-journée pour que son corps soit retiré par le père Xaverien, alerté par un passant. Né en 1926, ordonné prêtre en 1958, Christophe Munzi-Irwa est nommé archevêque de Bukavu en 1994. Il est mort le 29 octobre 1996. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Direction Kananga, clôture ce vendredi de la visite de 72 heures du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC et de 6 ambassadeurs au Kasaï et au Kasaï central. Quelques mois après le départ de la MONUSCO de la région, David McLachlan Carr explique que le souci est de voir comment mettre en marche le plan Nexus avec les agences et d'autres partenaires dans ces trois volets. Il s'agit de la réponse humanitaire, les projets de développement et la construction de la paix. Pour lui, il faudrait créer une vraie stabilité dans le Kasaï après les violences qui ont secoué cet espace. David McLachlan Carr au micro de François Kadima.
Premièrement, on a des projets maintenant pour aider les communautés de rétablir activité agricole avec les livraisons des semences utiles, mais aussi accès surtout pour les femmes à la terre. Le deuxième axe, la réintégration communautaire et la stabilisation, surtout pour les populations déplacées. Troisièmement, c'est la bonne gouvernance. Nous allons des projets conjoints pour renforcer les capacités étatiques, surtout pour la gestion des ressources naturelles, l'administration publique. Quatrième axe, on a comme un projet de renforcer les services de base, des projets conjoints pour l'éducation et dans la santé. Pensons qu'une priorité pour les Kasaï, c'est vraiment de rétablir les services de base à la population parce qu'ils sont assez faibles depuis des années des conflits et des années des manques d'investissement.
Retour au Nord Kivu. Dans le territoire de Lubero, la Commission des mouvements des populations, CMP, alerte sur les mauvaises conditions de vie des déplacés vivant à Miobwe, une entité du groupement Musindi, chefferie de Batangi. Information livrée hier à Radio Kapi. Cette structure indique que ces personnes sont confrontées actuellement à d'énormes difficultés alimentaires, étant donné que les champs des habitants de la zone sont envahis par des miliciens Maïmaï. Grâce Amzati nous raconte.
La CMP, Commission des mouvements des populations, cite notamment les villages Busavali, Karimbi, Bukumerwa, Kasiki et Kitobindo. Joseph Matata, président de cette organisation, affirme que les miliciens du FPP-AP de Kabido exigent à chaque cultivateur une somme de 2000 francs congolais et une quantité de vivres en vue d'accéder à leurs champs se trouvant dans ces villages occupés. Ceux qui y accèdent sans présenter les jetons de paiement sont soumis à des amendes allant jusqu'à 50 dollars américains. La CMP indique que la bourgade de Miobwe et celle de Bukumerwa voisine compte à ces jours 2636 familles déplacées. La CMP tire ainsi la sonnette d'alarme en vue de voler au secours de ces nécessités exposées à la malnutrition. La société civile locale invite pour sa part les forces de sécurité à mettre fin à l'activisme de ces miliciens dont les leader avaient pourtant adhéré au processus de paix. Le chef de la chefferie de Batangi, Mwamistou Kamwanaweka, qui confirme ces faits, appelle les autorités militaires à prendre des dispositions utiles. Nous n'avons pas réussi à joindre l'administrateur du territoire des Lubero à ce sujet. Boutembo, grâce Amzati, Radio Kapi.
Voilà, nous allons passer à l'actualité en dehors de nos frontières. Nous sommes d'abord au Soudan. La circulation reprend timidement à Khartoum, la capitale soudanaise. L'armée et les forces de soutien rapide ont rouvert des ponts et plusieurs autres artères afin de favoriser le retour progressif à la vie normale. Les opposants au coup d'État de lundi tentent toujours de défendre leurs barricades érigées pour paralyser le pays. La tension reste vive sur les réseaux sociaux, accessibles en des rares endroits dans un pays où les autorités ont coupé l'Internet. Les appels à la mobilisation massive demain samedi se multiplient. Les militants veulent 1 million de manifestants pour réclamer que le général Al-Bourhan, commandant militaire durant les 3 décennies de pouvoir sans partage d'Omar El-Béchir, rejoigne ce dernier en prison. Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden vont se rencontrer en fin de cet après-midi à Rome, en Italie, ce avant l'ouverture du G20 pour lequel les deux dirigeants se rendent dans la capitale italienne, une rencontre qui doit permettre de sceller la réconciliation franco-américaine après la crise provoquée par la décision de l'Australie de rompre au profit des États-Unis un contrat conclu avec la France pour la livraison des sous-marins.
L'invité.
Gouvernance inclusive de la paix, c'est le nouveau projet lancé au Kasaï central et dans le Maïndombe par l'ONG Interpeace, ce à travers sa structure de mise en œuvre au Kasaï dénommée Travail et droits de l'homme. Pour l'espace Kasaï, le temps est venu de consolider la paix avec la participation de tous après les événements du Kamuinan Sapu, explique le chargé des programmes à Interpeace. Invité de Radio Kapi, Bienfait Mouigi Roy revient sur les activités qui seront menées dans le cadre de ce projet. Ils sont traités avec François Kadima.
Monsieur Bienfait Mouigi Roy, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
La gouvernance paix, c'est un projet qui va être mené au Kasaï. C'est quoi ce concept de gouvernance paix?
En fait, d'abord, tout est parti de la crise qu'a connue le Kasaï central, avec les conflits qui ont entraîné en fait la perte de beaucoup de vies humaines et aussi beaucoup, je dirais, de dégâts au niveau de la province. Alors, on s'est dit qu'il serait mieux de mettre en place un projet qui pourra impliquer et inclure toutes les couches de population dans la gestion du processus de paix dans cette province. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes, n'est-ce pas, en train de lancer le projet que nous avons intitulé « La gestion de la gouvernance inclusive de la paix en République démocratique du Congo » et plus particulièrement dans la province du Kasaï central.
À la suite des événements de Kamuinan Sapu, il y a des choses à faire pour consolider la paix. Alors vous parlez de cette gouvernance inclusive. Qu'est-ce qui va être fait?
Voilà, ce qui va être fait d'abord en amont, c'est d'abord une étude pour pouvoir avoir une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, des conflits dans la zone et de pouvoir faire aussi la cartographie des acteurs pour savoir quels sont ces acteurs-là qui sont impliqués aujourd'hui dans le processus de consolidation de la paix dans la province du Kasaï. Et à côté de ça, en fait, il y a la mise en place des groupes de travail inclusifs qui sont constitués des différentes couches de population, donc au niveau d'abord des gouvernants, il y a les organisations de la société civile, il y a en fait les autorités politiques ou administratives qui sont dedans, les leaders religieux, mais aussi les chefs coutumiers. Donc ça va être toutes les couches représentées ensemble pour pouvoir organiser différentes activités sous forme de dialogue au sein des communautés et dans les différentes zones ou dans les différents territoires, mais aussi d'autres activités en termes de plaidoyer, mais aussi des sensibilisations dans les différentes zones. Donc en bref, c'est une manière, n'est-ce pas, de pouvoir impliquer tout le monde dans la gestion du processus de consolidation de la paix dans la zone.
C'est vrai que Interpeace travaille avec TDH au Kasaï. On a vu TDH mener un dialogue civilo-militaire. Alors, est-ce que c'est la même chose ou il y a quelque chose qui va changer dans les cadres de ce projet qui implique beaucoup d'acteurs actuellement?
En fait, ce qui change aujourd'hui, c'est l'engagement politique. Hein, parce que déjà, il y a des dialogues ou tout fou, il y a des activités qui étaient jusque-là gérées juste au niveau communautaire, entre les parties en conflit, bien entendu. Mais il a manqué, en fait, l'aspect de la participation, de l'implication de l'État, qui dirait, dans ce processus. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faudrait inclure, il fallait impliquer l'État congolais dans la gestion du processus de paix au Kasaï. Et raison pour laquelle, lorsque j'ai parlé de groupes de travail intégrés, plutôt inclusifs, en fait, c'est que c'est des groupes qui sont gérés directement par l'État à travers le ministère de l'Intérieur au niveau provincial et la vice-primature de l'Intérieur au niveau national.
Le projet va s'installer sur quelle période et il prend compte quel espace?
Le projet, d'abord, pour commencer, est financé par l'ambassade suédoise en République démocratique du Congo, donc l'ambassade de la Suède, évidemment à travers SIDA, pour une période de 4 ans. Et le projet s'étend dans 3 zones, donc 3 provinces. Il y a la province du Kasaï, Kasaï central et Maïndombe, pour parler de Kananga, Chikapa, il y a aussi Yumbi. Justement, donc, ça sera la même chose, étant donné que le contexte est presque similaire partout, parce que c'est des zones qui ont connu, en tout cas, des crises du point de vue conflictuel, où les communautés étaient déchirées et où il y a encore quelques traces en fait des conflits. Donc maintenant nous sommes dans une phase vraiment de la participation, de la gestion participative et des conflits dans ces zones.
Alors, qu'est-ce qu'Interpus attend des acteurs impliqués dans ce projet?
Ce qu'on attend d'abord des acteurs, c'est d'abord l'engagement. Donc, comme vous le constatez, pour les lancements, donc il y a les différents groupes, les différentes composantes qui vont devoir signer leur engagement pour accompagner le processus de consolidation de la paix dans la zone. Et nous, de notre côté, en fait, nous sommes là, comme d'habitude, pour les accompagner, pour les appuyer aussi du point de vue technique.
Monsieur Bienfait Mouhigi Roy, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, je vous remercie aussi.
Le chargé des programmes à Interpis était avec François Kadima. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, sous la supervision de Ben Kabamba, à la technique Jean-Claude Siala et devant ce micro, Belinda Bosuma. Retrouvez ce journal sur notre site www.radiocapi.net. Merci.